Littérature Audio a le plaisir de vous présenter une comédie de Marivaux, L'école des mères. Cette comédie en un acte a été représentée pour la première fois par les comédiens italiens le 25 juillet 1732. Les personnages. Madame Argante. Angélique, fille de Madame Argante. Lisette, suivante d'Angélique. Éraste, amant d'Angélique, sous le nom de Laramée. Damis, père d'Éraste, autre amant d'Angélique. Frontin, valet de Madame Argante. Champagne, valet de Monsieur Damis. La scène est dans l'appartement de Madame Argante. Scène première. Éraste sous le nom de Laramée et avec une livrée, Lisette.
Oui, vous voilà fort bien déguisée. Et avec cet habit-là, vous disant mon cousin, je crois que vous pouvez paraître ici en toute sûreté. Il n'y a que votre air qui n'est pas trop d'accord avec la livrée.
Il n'y a rien à craindre. Je n'ai pas même en entrant fait mention de notre parenté. J'ai dit que je voulais te parler, et l'on m'a répondu que je te trouverais ici, sans m'en demander davantage.
Je crois que vous devez être content du zèle avec lequel je vous sers. Je m'expose à tout, et ce que je fais pour vous n'est pas trop dans l'ordre. Mais vous êtes un honnête homme. Vous aimez ma jeune maîtresse, elle vous aime. Je crois qu'elle sera plus heureuse avec vous qu'avec celui que sa mère lui destine. Et cela calme un peu mes scrupules.
Elle-même, dis-tu ? Lisette, puis-je me flatter d'un si grand bonheur ? Moi qui ne l'ai vu qu'en passant dans nos promenades, qui ne lui ai prouvé mon amour que par mes regards, et qui n'ai pu lui parler que deux fois pendant que sa mère s'écartait avec d'autres dames. Elle-même ?
Très tendrement. Mais voici un domestique de la maison qui vient. C'est Frontin, qui ne me hait pas. Faites bonne contenance.
Scène 2. Frontin, Lisette, Éraste.
Ah, te voilà, Lisette. Avec qui es-tu donc là ?
Avec un de mes parents qui s'appelle Laramée, et dont le maître, qui est ordinairement en province, est venu ici pour affaires. Et il profite du séjour qu'il y fait pour me voir.
Un de tes parents, dis-tu ?
Oui.
C'est-à-dire un cousin ?
Sans doute.
Il a l'air d'un cousin de bien loin. Il n'a point la tournure d'un parent, ce garçon-là.
Qu'est-ce que tu veux dire avec ta tournure ?
Je veux dire que ce n'est, par ma foi, que de la fausse monnaie que tu me donnes, et que si le diable emportait ton cousin, il ne t'en resterait pas un parent de moins.
Et pourquoi pensez-vous qu'elle vous trompe ?
Quelle physionomie de fripon ! Monse de Laramée, je vous avertis que j'aime Lisette, et que je veux l'épouser tout seul.
Il est pourtant nécessaire que je lui parle pour une affaire de famille qui ne te regarde pas.
Oh, parbleu ! Que les secrets de ta famille s'accommodent. Moi, je reste.
Il faut prendre son parti. Frontin.
Après.
Serais-tu capable de rendre service à un honnête homme qui t'en récompenserait bien ?
Honnête homme ou non, son honneur est de trop, dès qu'il récompense.
Tu sais à qui Madame Marie-Angélique, ma maîtresse ?
Oui, je pense que c'est à peu près 60 ans qui en épouse 17.
Tu vois bien que ce mariage-là ne convient point.
Oui, il menace la stérilité. Les héritiers en seront nuls ou auxiliaires.
Ce n'est qu'un regret qu'Angélique obéit. D'autant plus que le hasard lui a fait connaître un aimable homme qui a touché son cœur.
Le cousin, Laramée, pourrait bien nous venir de là.
Tu l'as dit, c'est cela même.
Oui, mon enfant, c'est moi.
Et que ne le disiez-vous ? En ce cas-là, je vous pardonne votre figure et je suis tout à vous. Voyons, que faut-il faire ?
Rien que favoriser une entrevue que Lisette va me procurer ce soir, et tu seras content de moi.
Je le crois, mais qu'espérez-vous de cette entrevue ? Car on signe le contrat ce soir.
Eh bien, pendant que la compagnie, avant le souper, sera dans l'appartement de madame, monsieur nous attendra dans cette salle-ci, sans lumière, pour n'être point vu, et nous y viendrons, Angélique et moi, pour examiner le parti qu'il y aura à prendre.
Ce n'est pas de l'entretien dont je joute. Mais à quoi aboutira-t-il ? Angélique est une Agnès, élevée dans la plus sévère contrainte, et qui, malgré son penchant pour vous, n'aura que des regrets, des larmes et de la frayeur à vous donner. Est-ce que vous avez dessein de l'enlever ?
Ce serait un parti bien extrême.
Et dans l'extrémité, ne vous ferez pas grand-peur, n'est-il pas vrai ?
Pour nous, Frontin, nous ne nous chargerons que de faciliter l'entretien, auquel je serai présente. Mais de ce qu'on y résoudra, nous n'y tremblons point. Cela ne nous regarde pas.
Oh, si fait, cela nous regarderait un peu si cette petite conversation nocturne que nous leur ménageons dans la salle était découverte. D'autant plus qu'une des portes de la salle aboutit au jardin, que du jardin, on va à une petite porte qui rend dans la rue, et qu'à cause de la salle où nous les mettrons, nous répondrons de toutes ces petites portes-là qui sont de notre connaissance. Mais tout couvaille. Pour se mettre à son aise, il faut quelquefois risquer son honneur. Il s'agit d'ailleurs d'une jeune victime qu'on veut sacrifier, et je crois qu'il est généreux d'avoir part à sa délivrance, sans s'embarrasser de quelle façon elle s'opérera. Monsieur paiera bien, cela grossira ta dot, et nous ferons une action qui joindra l'utile au louable.
Ne vous inquiétez de rien, je n'ai point envie d'enlever Angélique, et je ne veux que l'exciter à refuser l'époux qu'on lui destine. Mais la nuit s'approche, où me retirerai-je en attendant le moment où je verrai Angélique ?
Comment sait encore qui vous êtes, en cas qu'on vous fît quelques questions, au lieu d'être mon parent, soyez celui de Frontin, et retirez-vous dans sa chambre, qui est à côté de cette salle, et d'où Frontin pourra vous amener quand il faudra.
Oui, dame, monsieur, disposez de mon appartement.
Allez tout à l'heure, car il faut que je prévienne Angélique, qui assurément sera charmée de vous voir, mais qui ne sait pas que vous êtes ici, et à qui je dirai d'abord qu'il y a un domestique dans la chambre de Frontin qui demande à lui parler de votre part. Mais sortez, j'entends quelqu'un qui vient.
Allons, cousin, sauvons-nous.
Non, restez, c'est la mère d'Angélique. Elle vous verrait fuir, il vaut mieux que vous demeuriez.
Scène 3. Lisette, Frontin, Eraste, Madame Argante.
Où est ma fille, Lisette ?
Apparemment qu'elle est dans sa chambre, madame.
Qui est ce garçon-là ?
Madame, c'est un garçon de condition, comme vous voyez, qui m'est venu voir, et à qui je m'intéresse parce que nous sommes fils des deux frères. Il n'est pas content de son maître. Ils se sont brouillés ensemble et il vient me demander si je ne sais pas quelque maison dont il pût s'accommoder.
Sa physionomie est assez bonne. Chez qui avez-vous servi, mon enfant ?
Chez un officier du régiment du roi, madame.
Eh bien, je parlerai de vous à monsieur Damis, qui pourra vous donner à ma fille. Demeurez ici jusqu'à ce soir et laissez-nous. Restez, Lisette.
Scène 4. Madame Argante, Lisette.
Ma fille vous dit assez volontiers ses sentiments, Lisette. Dans quelle disposition d'esprit est-elle pour le mariage que nous allons conclure ? Elle ne m'a marqué, du moins, aucune répugnance.
Oh, madame, elle n'oserait vous en marquer quand elle en aurait. C'est une jeune et timide personne à qui jusqu'ici son éducation n'a rien appris qu'à obéir.
C'est, je pense, ce qu'elle pouvait apprendre de mieux à son âge.
Je ne dis pas le contraire.
Mais enfin, vous paraît-elle contente ?
Et peut-on rien connaître ? Vous savez qu'à peine ose-t-elle lever les yeux, tant elle a peur de sortir de cette modestie sévère que vous voulez qu'elle ait. Tout ce que j'en sais, c'est qu'elle est triste.
Oh, je le crois. C'est une marque qu'elle a le cœur bon. Elle va se marier, elle me quitte, elle m'aime, et notre séparation est douloureuse.
Eh, hey, ordinairement pourtant, une fille qui va se marier est assez gaie.
Oui, une fille dissipée, élevée dans un monde coquet, qui a plus entendu parler d'amour que de vertu, et que 1000 jeunes étourdis ont eu l'impertinente liberté d'entretenir de cajolerie. Mais une fille retirée, qui vit sous les yeux de sa mère, et dont rien n'a gâté ni le cœur ni l'esprit, ne laisse pas que d'être alarmée quand elle change d'état. Je connais Angélique et la simplicité de ses mœurs. Elle n'aime pas le monde, et je suis sûre qu'elle ne me quitterait jamais si je l'en laissais la maîtresse.
Cela est singulier.
Oh, j'en suis sûre. À l'égard du mari que je lui donne, je ne doute pas qu'elle n'approuve mon choix. C'est un homme très riche, très raisonnable.
Pour raisonnable, il a eu le temps de le devenir.
Oui, un peu vieux, à la vérité, mais doux, mais complaisant, attentif, aimable.
Aimable? Prenez donc garde, madame. Il a 60 ans, cet homme.
Il est bien question de l'âge d'un mari avec une fille élevée comme la mienne.
Oh, s'il n'en est pas question avec mademoiselle votre fille, il n'y aura guère eu de prodige de cette force-là.
Qu'entendez-vous avec votre prodige?
J'entends qu'il faut, le plus qu'on peut, mettre la vertu des gens à son aise, et que celle d'Angélique ne sera pas sans fatigue.
Vous avez de sottes idées, Lisette. Les inspirez-vous à ma fille?
Oh que non, madame. Elle les trouvera bien sans que je m'en mêle.
Et pourquoi, de l'humeur dont elle est, ne serait-elle pas heureuse?
C'est qu'elle ne sera point de l'humeur dont vous dites. Cette humeur-là n'existe nulle part.
Il faudrait qu'elle l'eût bien difficile, si elle ne s'accommodait pas d'un homme qui l'adorera.
On adore mal, à son âge.
Qui ira au-devant de tous ses désirs?
Ils seront donc bien modestes.
Taisez-vous, je ne sais de quoi je m'avise de vous écouter.
Vous m'interrogez, et je vous réponds sincèrement.
Allez dire à ma fille qu'elle vienne.
Il n'est pas besoin de l'aller chercher, madame. La voilà qui passe, et je vous laisse.
Scène 5. Angélique, Madame Argante.
Venez, Angélique, j'ai à vous parler.
Que souhaitez-vous, ma mère?
Vous voyez, ma fille, ce que je fais aujourd'hui pour vous. Ne tenez-vous pas compte à ma tendresse du mariage avantageux que je vous procure?
Angélique, faisant la révérence.
Je ferai tout ce qu'il vous plaira, ma mère.
Je vous demande si vous me savez gré du parti que je vous donne. Ne trouvez-vous pas qu'il est heureux pour vous d'épouser un homme comme M. Damis, dont la fortune, dont le caractère sûr et plein de raison, vous assurent une vie douce et paisible, telle qu'il convient à vos mœurs et aux sentiments que je vous ai toujours inspirés? Allons, répondez, ma fille.
Vous me l'ordonnez donc?
Oui, sans doute. Voyez, n'êtes-vous pas satisfaite de votre sort?
Mais...
Quoi, mais? Je veux qu'on me réponde raisonnablement. Je m'attends à votre reconnaissance, et non pas à des mais.
Je n'en dirai plus, ma mère.
Je vous dispense des révérences. Dites-moi ce que vous pensez.
Ce que je pense?
Oui. Comment regardez-vous le mariage en question?
Mais...
Toujours des mais!
Je vous demande pardon. Je n'y songeais pas, ma mère.
Eh bien, songez-y donc, et souvenez-vous qu'il me déplaise. Je vous demande quelles sont les dispositions de votre cœur dans cette conjoncture-ci. Ce n'est pas que je doute que vous soyez contente, mais je voudrais vous l'entendre dire vous-même.
Les dispositions de mon cœur? Je tremble de ne pas répondre à votre fantaisie.
Et pourquoi ne répondriez-vous pas à ma fantaisie?
C'est que ce que je dirais vous fâcherait peut-être.
Parlez bien, et je ne me fâcherai point. Est-ce que vous n'êtes point de mon sentiment? Êtes-vous plus sage que moi?
C'est que je n'ai point de disposition dans le cœur.
Et qui avez-vous donc, mademoiselle?
Rien du tout.
Rien? Qu'est-ce que rien? Ce mariage ne vous plaît donc pas?
Non.
Comment? Il vous déplaît?
Non, ma mère.
Eh, parlez donc, car je commence à vous entendre. C'est-à-dire, ma fille, que vous n'avez point de volonté?
J'en aurai pourtant une, si vous le voulez.
Il n'est pas nécessaire. Vous faites encore mieux d'être comme vous êtes, de vous laisser conduire et de vous en fier entièrement à moi. Oui, vous avez raison, ma fille, et ces dispositions d'indifférence sont les meilleures. Aussi, voyez-vous que vous en êtes récompensée. Je ne vous donne pas un jeune extravagant qui vous négligerait peut-être au bout de 15 jours, qui dissiperait son bien et le vôtre pour courir après 1000 passions libertines. Je vous marie à un homme sage, à un homme dont le cœur est sûr et qui saura tout le prix de la vertueuse innocence du vôtre.
Pour innocente, je le suis.
Oui, grâce à mes soins. Je vous vois telle que j'ai toujours souhaité que vous fussiez. Comme il vous est familier de remplir vos devoirs, les vertus dont vous allez avoir besoin ne vous coûteront rien. Et voici les plus essentielles. C'est d'abord de n'aimer que votre mari.
Et si j'ai des amis, qu'en ferai-je?
Vous n'en devez point avoir d'autres que ceux de Monsieur Damis, aux volontés de qui vous vous conformerez toujours, ma fille. Nous sommes sur ce pied-là dans le mariage.
Ces volontés ? Et que deviendront les miennes ?
Je sais que cet article a quelque chose d'un peu mortifiant, mais il faut s'y rendre, ma fille. C'est une espèce de loi qu'on nous a imposée, et qui, dans le fond, nous fait honneur. Car entre deux personnes qui vivent ensemble, c'est toujours la plus raisonnable qu'on charge d'être la plus docile. Et cette docilité-là vous sera facile. Car vous n'avez jamais eu de volonté avec moi. Vous ne connaissez que l'obéissance.
Oui, mais mon mari ne sera pas ma mère.
Vous lui devez encore plus qu'à moi, Angélique. Et je suis sûre qu'on n'aura rien à vous reprocher là-dessus. Je vous laisse. Songez à tout ce que je vous ai dit. Et surtout, gardez ce goût de retraite, de solitude, de modestie, de pudeur qui me charme en vous. Ne plaisez qu'à votre mari, et restez dans cette simplicité qui ne vous laisse ignorer que le mal. Adieu, ma fille.
Scène 6. Angélique, Lisette. Angélique, un moment seule.
Qui ne me laisse ignorer que le mal? Et quand sait-elle? Elle l'a donc appris? Eh bien, je veux l'apprendre aussi.
Lisette survient.
Eh bien, mademoiselle, à quoi en êtes-vous?
J'en suis à m'affliger, comme tu vois.
Qu'avez-vous dit à votre mère?
Eh, tout ce qu'elle a voulu.
Vous épouserez donc Monsieur Damy?
Moi, l'épouser? Je t'assure que non. C'est bien assez qu'il m'épouse.
Oui, mais vous n'en serez pas moins sa femme.
Eh bien, ma mère n'a qu'à l'aimer pour nous deux. Car, pour moi, je n'aimerai jamais qu'Éraste.
Il le mérite bien.
Oh, pour cela, oui. C'est lui qui est aimable, qui est complaisant. Et non pas ce monsieur Damis, que ma mère a été prendre je ne sais où, qui ferait bien mieux d'être mon grand-père que mon mari, qui me glace quand il me parle, et qui m'appelle toujours ma belle personne, comme si on s'embarrassait beaucoup d'être belle ou laide avec lui, au lieu que tout ce que me dit Éraste est si touchant. On voit que c'est du fond du cœur qu'il parle. Et j'aimerais mieux être sa femme seulement 8 jours que de l'être toute ma vie de l'autre.
On dit qu'il est au désespoir, Éraste.
Eh, comment veut-il que je fasse? Hélas, je sais bien qu'il sera inconsolable. N'est-on pas bien à plaindre quand on s'aime tant de n'être pas ensemble? Ma mère dit qu'on est obligé d'aimer son mari. Eh bien, qu'on me donne Éraste, je l'aimerai tant qu'on voudra, puisque je l'aime avant que d'y être obligée. Je n'aurai garde d'y manquer quand il le faudra. Cela me sera bien commode.
Mais avec ces sentiments-là, que ne refusez-vous courageusement d'amis? Il est encore temps. Vous êtes d'une vivacité étonnante avec moi, et vous tremblez devant votre mère. Il faudrait lui dire ce soir, « Cet homme-là est trop vieux pour moi, je ne l'aime point, je le hais, je le haïrai et je ne saurais l'épouser. »
Tu as raison, mais quand ma mère me parle, je n'ai plus d'esprit. Cependant, je sens que j'en ai, assurément, et j'en aurais bien davantage si elle l'avait voulu. Mais n'être jamais qu'avec elle, n'entendre que des préceptes qui me lassent, ne faire que des lectures qui m'ennuient, est-ce là le moyen d'avoir de l'esprit? Qu'est-ce que cela apprend? Il y a des petites filles de 7 ans qui sont plus avancées que moi. Cela n'est-il pas ridicule? Je n'ose pas seulement ouvrir ma fenêtre. Voyez, je vous prie, de quel air on m'habille. Suis-je vêtue comme une autre? Regardez comme me voit la fête. Ma mère appelle cela un habit modeste. Il n'y a donc de la modestie nulle part qu'ici, car je ne vois que moi d'enveloppée comme cela. Aussi suis-je d'une enfance, d'une curiosité. Je ne porte point de ruban, mais qu'est-ce que ma mère y gagne? Que j'ai des émotions quand j'en aperçois. Elle ne m'a laissé voir personne, et avant que je connusse Éraste, le cœur me battait quand j'étais regardée par un jeune homme. Voilà pourtant ce qui m'est arrivé.
Votre naïveté me fait rire.
Mais est-ce que je n'ai pas raison? Serais-je de même si j'avais joui d'une liberté honnête? En vérité, si je n'avais pas le cœur bon, tiens, je crois que je haïrais ma mère. D'être cause que j'ai des émotions pour des choses dont je suis sûre que je ne me soucierais pas si je les avais. Aussi, quand je serai ma maîtresse, Laisse-moi faire, va. Je veux savoir tout ce que les autres savent.
Je m'en fie bien à vous.
Moi qui suis naturellement vertueuse, sais-tu bien que je m'endors quand j'entends parler de sagesse? Sais-tu bien que je serais fort heureuse de n'être pas coquette? Je ne la serais pourtant pas. Mais ma mère mériterait bien que je la devinsse.
Ah, si elle pouvait vous entendre et jouir du fruit de sa sévérité. Mais parlons d'autre chose. Vous aimez Eraste?
Vraiment, oui, je l'aime. Pourvu qu'il n'y ait point de mal à avouer cela. Car je suis si ignorante. Je ne sais point ce qui est permis ou non, au moins.
C'est un aveu sans conséquence avec moi.
Oh, sur ce pied-là, je l'aime beaucoup, et je ne puis me résoudre à le perdre.
Prenez donc une bonne résolution de n'être pas un autre. Il y a ici un domestique à lui qui a une lettre à vous rendre de sa part.
Une lettre de sa part? Et tu ne m'en disais rien? Où est-elle? Oh, que j'aurais de plaisir à la lire! Donne-moi-la donc! Où est ce domestique?
Doucement, modérez cet empressement-là. Cachez-en du moins une partie à Eraste. Si par hasard vous lui parliez, il y aurait du trop.
Oh, dame, c'est encore ma mère qui en est la cause. Mais est-ce que je pourrais le voir? Tu me parles de lui et de sa lettre, et je ne vois ni l'un ni l'autre.
Scène 7. Lisette, Angélique, Frontin, Eraste.
Tenez, voici ce domestique que Frontin nous amène.
Frontin ne dira-t-il rien à ma mère?
Ne craignez rien, il est dans vos intérêts. Et ce domestique passe pour son parent.
Frontin tenant une lettre.
Le valet de Monsieur Eraste vous apporte une lettre que voici, madame.
Donnez.
À Lisette.
Suis-je assez sérieuse?
Fort bien.
Angélique lit.
Que viens-je d'apprendre? On dit que vous vous mariez ce soir. Si vous concluez sans me permettre de vous voir, je ne me soucie plus de la vie. Il ne se soucie plus de la vie, Lisette?
Elle achève de lire.
Adieu, j'attends votre réponse, et je me meurs.
Après qu'elle a lu.
Cette lettre-là me pénètre. Il n'y a point de modération qui tienne, Lisette. Il faut que je lui parle, et je ne veux pas qu'il meure. Allez lui dire qu'il vienne. On le fera entrer comme on pourra.
Eraste se jetant à ses genoux.
Vous ne voulez point que je meure, et vous vous mariez, Angélique?
Ah, c'est vous, Eraste?
À quoi vous déterminez-vous donc?
Je ne sais, je suis trop émue pour vous répondre. Levez-vous.
Eraste se levant.
Mon désespoir vous touchera-t-il?
Est-ce que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit?
Il m'a paru que vous m'aimiez un peu.
Non, non, il vous a paru mieux que cela, car j'ai dit bien franchement que je vous aime. Mais il faut m'excuser, Eraste, car je ne savais pas que vous étiez là.
Est-ce que vous seriez fâché de ce qui vous est échappé?
Moi, fâché? Au contraire, je suis bien aise que vous l'ayez appris, sans qu'il y ait de ma faute. Je n'aurai plus la peine de vous le cacher.
Prenez garde qu'on ne vous surprenne.
Il a raison. Je crois que quelqu'un vient. Retirez-vous, madame.
Mais je crois que vous n'avez pas eu le temps de me dire tout.
Hélas! Madame, je n'ai encore rien fait que vous voir, et j'ai besoin d'un entretien pour vous résoudre à me sauver la vie.
Angélique, en s'en allant.
Ne lui donneras-tu pas le temps de me résoudre, Lisette?
Oui, Frontin et moi, nous aurons soin de tout. Vous allez vous revoir bientôt, mais retirez-vous.
Scène 8. Lisette, Frontin, Eraste, Champagne.
Qui est-ce qui entre là? C'est le valet de Monsieur Damy.
Hé hey! D'où le connaissez-vous? C'est le valet de mon père, et non pas de Monsieur Damis qui m'est inconnu.
Vous vous trompez. Ne vous déconcertez pas.
Bonsoir, la jolie fille. Bonsoir, messieurs. Je viens attendre ici mon maître qui m'envoie dire qu'il va venir. Je suis charmé d'une rencontre.
En regardant Eraste.
Mais comment appelez-vous monsieur?
Vous importe-t-il de savoir que je m'appelle Laramée?
Laramée? Et pourquoi est-ce que vous portez ce visage-là?
Pourquoi? La belle question. Parce que je n'en ai pas reçu d'autre. Adieu, Lisette. Le début de ce butor-là m'ennuie.
Scène 9. Champagne, Frontin, Lisette.
Je voudrais bien savoir à qui tu en as. Est-ce qu'il n'est pas permis à mon cousin Laramée d'avoir son visage?
Je veux bien que monsieur Laramée en ait un, mais il ne lui est pas permis de se servir de celui d'un autre.
Comment celui d'un autre? Qu'est-ce que cette folie-là?
Oui, celui d'un autre. En un mot, cette mine-là ne lui appartient point. Elle n'est point à sa place ordinaire. Ou bien j'ai vu l'appareil à quelqu'un que je connais.
C'est peut-être une physionomie à la mode, et la ramée en aura pris une.
Voilà bien en effet des discours d'un buteur comme toi, Champagne. Est-ce qu'il n'y a pas 1000 gens qui se ressemblent?
Cela est vrai, mais qu'il appartienne à ce qu'il voudra, je ne m'en soucie guère. Chacun a le sien. Et il n'y a que vous, mademoiselle Lisette, qui n'avez celui de personne, car vous êtes plus jolie que tout le monde. Il n'y a rien de si aimable que vous.
Halte là, laisse ce minois-là en repos. Ton éloge le déshonore.
Ah, monsieur Frontin, ce que j'en dis, c'est en cas que vous n'aimiez pas Lisette, comme cela peut arriver, car chacun n'est pas du même goût.
Paix, vous dis-je, car je l'aime.
Et vous, mademoiselle Lisette?
Tu joues de malheur, car je l'aime.
Je l'aime partout, je l'aime. Il n'y aura donc rien pour moi.
Lisette, en s'en mêlant.
Une révérence de ma part.
Frontin, en s'en mêlant.
Des injures de la mienne, et quelques coups de poing si tu veux.
Oh, n'ai-je pas fait là une belle fortune?
Scène 10. Monsieur Damis, Champagne.
Ah, te voilà.
Oui, monsieur, on vient de m'apprendre qu'il n'y a rien pour moi, et ma part ne me donne pas une bonne opinion de la vôtre.
Qu'entends-tu par là?
C'est que Lisette ne veut point de moi, et outre cela, j'ai vu la physionomie de monsieur votre fils sur le visage d'un valet.
Je n'y comprends rien. Laisse-nous. Voilà Madame Argante et Angélique.
Scène 11. Madame Argante, Angélique, Monsieur Damis.
Vous venez sans doute d'arriver, monsieur.
Oui, madame, en ce moment.
Il y a déjà bonne compagnie assemblée chez moi, c'est-à-dire une partie de ma famille, avec quelques-uns de nos amis. Car pour les vôtres, vous n'avez pas voulu leur confier votre mariage.
Non, madame, j'ai craint qu'on enviât mon bonheur et j'ai voulu me l'assurer en secret. Mon fils même ne sait rien de mon dessein et c'est à cause de cela que je vous ai prié de vouloir bien me donner le nom de Damis au lieu de celui d'Orgon qu'on mettra dans le contrat.
Vous êtes le maître, monsieur. Au reste, il n'appartient point à une mère de vanter sa fille. Mais je crois vous faire un présent digne d'un honnête homme comme vous. Il est vrai que les avantages que vous lui faites...
Oh, madame, n'en parlons point, je vous prie. C'est à moi de vous remercier toutes deux. Je n'ai pas dû espérer que cette belle personne, grâce au peu que je vaux.
Angélique, à part.
Belle personne.
Tous les trésors du monde ne sont rien au prix de la beauté et de la vertu qu'elle m'apporte en mariage.
Pour de la vertu, vous lui rendrez justice. Mais, monsieur, on vous attend. Vous savez que j'ai permis que nos amis se déguisassent et fissent une espèce de petit bal tantôt. Le voulez-vous bien? C'est le premier que ma fille aura vu.
Comme il vous plaira, madame.
Allez donc rejoindre la compagnie.
Oserais-je auparavant vous prier d'une chose, madame, daignez, à la faveur de notre union prochaine, m'accorder un petit moment d'entretien avec Angélique. C'est une satisfaction que je n'ai pas eue jusqu'ici.
Oh, j'y consens, monsieur. On ne peut vous le refuser dans la conjoncture présente. Et ce n'est pas apparemment pour éprouver le cœur de ma fille. Il n'est pas encore temps qu'il se déclare tout à fait. Il doit vous suffire qu'elle obéisse sans répugnance. Et c'est ce que vous pouvez dire à monsieur, Angélique. Je vous le permets, entendez-vous?
J'entends, ma mère.
Scène 12. Angélique, monsieur Damis.
Enfin, charmante Angélique, je puis donc sans témoin vous jurer une tendresse éternelle. Il est vrai que mon âge ne répond pas au vôtre.
Oui, il y a bien de la différence.
Cependant, on me flatte que vous acceptez ma main sans répugnance.
Ma mère le dit.
Et elle vous a permis de me le confirmer vous-même.
Oui, mais on n'est pas obligé d'user des permissions qu'on a.
Est-ce par modestie, est-ce par dégoût que vous me refusez l'aveu que je demande?
Non, ce n'est pas par modestie.
Que me dites-vous là? C'est donc par dégoût? Vous ne me répondez rien?
C'est que je suis poli.
Vous n'auriez donc rien de favorable à me répondre?
Il faut que je me taise encore.
Toujours par politesse?
Oh, toujours.
Parlez-moi franchement, est-ce que vous me haïssez?
Vous embarrassez encore mon savoir-vivre. Seriez-vous bien aise si je vous disais oui?
Vous pourriez dire non.
Encore moins, car je mentirais.
Quoi? Vos sentiments vont jusqu'à la haine, Angélique? J'avais cru que vous vous contentiez de ne pas m'aimer.
Si vous vous en contentez, et moi aussi, et s'il n'est pas malhonnête d'avouer aux gens qu'on ne les aime point, je ne serai plus embarrassée.
Et vous me l'avoueriez?
Tant qu'il vous plaira.
C'est une répétition dont je ne suis point curieux, et ce n'était pas là ce que votre mère m'avait fait entendre.
Oh, vous pouvez vous en fier à moi. Je sais mieux cela que ma mère, elle a pu se tromper. Mais, pour moi, je vous dis la vérité.
Qui est-ce que vous n'aimez point?
Oh, du tout, je ne saurais. Et ce n'est pas par malice, c'est naturellement. Et vous qui êtes, à ce qu'on dit, un si honnête homme, si en faveur de ma sincérité vous vouliez ne me plus aimer et me laisser là, car aussi bien je ne suis pas si belle que vous le croyez, tenez, vous en trouverez 100 qui vaudront mieux que moi.
Voyons si elle l'aime ailleurs. Mon intention, assurément, n'est pas qu'on vous contraigne.
Ce que vous dites là est bien raisonnable, et je ferai grand cas de vous si vous continuez.
Je suis même fâché de ne l'avoir pas su plus tôt.
Hélas, si vous me l'aviez demandé, je vous l'aurais dit.
Et il faut y mettre ordre.
Que vous êtes bon et obligeant. N'allez pourtant pas dire à ma mère que je vous ai confié que je ne vous aime point, parce qu'elle se mettrait en colère contre moi. Mais faites mieux. Dites-lui seulement que vous ne me trouvez pas assez d'esprit pour vous, que je n'ai pas tant de mérite que vous l'aviez cru, comme c'est la vérité, enfin que vous avez encore besoin de vous consulter. Ma mère, qui est fort fière, ne manquera pas de se choquer, elle rompra tout, notre mariage ne se fera point, et je vous aurai, je vous jure, une obligation infinie.
Non, Angélique, non, vous êtes trop aimable. Elle se douterait que c'est vous qui ne voulez pas, et tous ces prétextes-là ne valent rien. Il n'y en a qu'un bon. Aimez-vous ailleurs?
Moi? Non, n'allez pas le croire.
Sur ce pied-là, je n'ai point d'excuse. J'ai promis de vous épouser, et il faut que je tienne parole, au lieu que, si vous aimiez quelqu'un, je ne lui dirais pas que vous me l'avez avoué, mais seulement que je m'en doute.
Eh bien, doutez-vous-en donc.
Mais il n'est pas possible que je m'en doute si cela n'est pas vrai, autrement ce serait être de mauvaise foi. Et malgré toute l'envie que j'ai de vous obliger, je ne saurais dire une imposture.
Allez, allez, n'ayez point de scrupules, vous parlerez en homme d'honneur.
Vous aimez donc?
Mais ne me trahissez-vous point, monsieur Damis.
Je n'ai que vos véritables intérêts en vue.
Quel bon caractère! Oh, que je vous aimerais si vous n'aviez que 20 ans!
Eh bien?
Vraiment, oui. Il y a quelqu'un qui me plaît.
Frontin arrive.
Monsieur, je viens de la part de madame vous dire qu'on vous attend avec mademoiselle.
Nous y allons. Et où avez-vous connu celui qui vous plaît?
Ah, ne m'en demandez pas davantage, puisque vous ne voulez que vous douter que j'aime. En voilà plus qu'il n'en faut pour votre probité, et je vais vous annoncer là-haut.
Scène 13. Monsieur Damis, Frontin.
Ceci me chagrine, mais je l'aime trop pour la céder à personne. Frontin, Frontin, approche, je voudrais te dire un mot.
Volontiers, monsieur, mais on est impatient de vous voir.
Je ne tarderai qu'un moment. Viens, j'ai remarqué que tu es un garçon d'esprit.
Eh, j'ai des jours où je n'en manque pas.
Veux-tu me rendre un service dont je te promets que personne ne sera jamais instruit?
Vous marchandez ma fidélité, mais je suis dans mon jour d'esprit. Il n'y a rien à faire. Je sens combien il faut être discret.
Je te paierai bien.
Arrêtez donc, monsieur, ces débuts-là m'attendrissent toujours.
Voilà ma bourse.
Quel embonpoint séduisant. Qu'il a l'air vainqueur.
Elle l'est à toi, si tu veux me confier ce que tu sais sur le chapitre d'Angélique. Je viens, adroitement, de lui faire avouer qu'elle a un amant, et, observée comme elle l'est par sa mère, elle ne peut ni l'avoir vue, ni avoir de ses nouvelles que par le moyen des domestiques. Tu t'en es peut-être mêlé toi-même, ou tu sais qui s'en mêle, et je voudrais écarter cet homme-là. Qui est-il? Où se sont-ils vus? Je te garderai le secret.
Frontin, prenant la bourse.
Je résisterai à ce que vous dites. Mais ce que vous tenez m'entraîne, et je me rends.
Parle.
Vous me demandez un détail que j'ignore. Il n'y a que Lisette qui soit parfaitement instruite dans cette intrigue-là.
La fourbe.
Prenez garde, vous ne sauriez la condamner sans me faire son procès. Je viens de céder à un trait d'éloquence qu'on aura peut-être employé contre elle. Au reste, je ne connais le jeune homme en question que depuis une heure. Il est actuellement dans ma chambre. Lisette en a fait mon parent, et dans quelques moments, elle doit l'introduire ici même où je suis chargé d'éteindre les bougies, et où elle doit arriver avec Angélique pour y traiter ensemble des moyens de rompre votre mariage.
Il ne tiendra donc qu'à toi que je sois pleinement instruit de tout.
Comment ?
Tu n'as qu'à souffrir que je me cache ici. On ne m'y verra pas, puisque tu vas en ôter les lumières, et j'écouterai tout ce qu'ils diront.
Vous avez raison. Attendez, quelques amis de la maison qui sont là-haut et qui veulent se déguiser après souper pour se divertir ont fait apporter des dominos qu'on a mis dans le petit cabinet à côté de la salle. Voulez-vous que je vous en donne un ?
Tu me feras plaisir.
Je cours vous le chercher, car l'heure approche.
Va.
Scène 14. Monsieur Damis, Frontin. Monsieur Damis, un moment seul.
Je ne saurais mieux m'y prendre pour savoir de quoi il est question. Si je vois que l'amour d'Angélique aille à un certain point, il ne s'agit plus de mariage. Seulement, je tremble qu'on est malheureux d'aimer à mon âge.
Frontin revient.
Tenez, monsieur, voilà tout votre attirail jusqu'à un masque. C'est un visage qui ne vous donnera que 18 ans. Vous ne perdrez rien au change. Ajustez-vous vite. Bon, mettez-vous là et ne remuez pas. Voilà les lumières éteintes. Bonsoir.
Écoute, le jeune homme va venir et je rêve à une chose. Quand Lisette et Angélique seront entrées, dis à la mère, de ma part, que je la prie de se rendre ici sans bruit. Cela ne te compromet point et tu y gagneras.
Mais vous prenez donc cette commission-là à crédit ?
Va, ne t'embarrasse point.
Frontin tâtonne.
Soit. Je sors. J'ai de la peine à trouver mon chemin. Mais j'entends quelqu'un.
Scène 15. Lisette, Éraste, Frontin, Monsieur Damis. Lisette est à la porte avec Éraste pour entrer.
Est-ce toi, Lisette ?
Oui. À qui parles-tu donc là ?
À la nuit, qui m'empêchait de retrouver la porte. Avec qui es-tu, toi ?
Parle bas. Avec Éraste, que je vais rentrer dans la salle.
Éraste ?
Bon, où est-il ? La ramée ?
Me voilà.
Frontin, le prenant par le bras.
Tenez, monsieur, marchez et promenez-vous du mieux que vous pourrez en attendant.
Adieu. Dans un moment, je reviens avec ma maîtresse.
Scène 16. Éraste, Monsieur Damis, caché.
Je ne saurais douter qu'Angélique ne m'aime, mais sa timidité m'inquiète, et je crains de ne pouvoir l'enhardir à dédire sa mère.
Est-ce que je me trompe ? C'est la voix de mon fils. Écoutons.
Tâchons de ne pas faire de bruit.
Il marche en tâtonnant.
Je crois qu'il vient à moi. Changeons de place.
J'entends remuer du taffetas. Est-ce vous, Angélique ? Est-ce vous ?
En disant cela, il attrape Monsieur Damis par le domino. Monsieur Damis, retenu.
Doucement.
Ah, c'est vous-même.
C'est mon fils.
Eh bien, Angélique, me condamnerez-vous à mourir de douleur ? Vous m'avez dit tantôt que vous m'aimiez, vos beaux yeux me l'ont confirmé par les regards les plus aimables et les plus tendres. Mais de quoi me servira d'être aimé si je vous perds? Au nom de notre amour, Angélique, puisque vous m'avez permis de me flatter du vôtre, gardez-vous à ma tendresse. Je vous en conjure, par ces charmes que le ciel semble n'avoir destinés que pour moi, par cette main adorable sur qui je vous jure un amour éternel.
Monsieur Damise veut retirer sa main.
Ne la retirez pas, Angélique, et dédommagez Eraste du plaisir qu'il n'a point de voir vos beaux yeux par l'assurance de n'être jamais qu'à lui. Parlez, Angélique.
J'entends du bruit. Taisez-vous, petit sot.
Et il se retire d'Eraste.
Juste ciel, qu'entends-je? Vous me fuyez? Ah, Lisette, n'es-tu pas là?
Scène 17. Angélique et Lisette qui entrent, Monsieur Damise, Eraste.
Et nous voici, monsieur.
Je suis au désespoir, ta maîtresse me fuit.
Moi, Eraste? Je ne vous fuis point, me voilà.
Et quoi? Ne venez-vous pas de me dire tout ce qu'il y a de plus cruel?
Eh, je n'ai encore dit qu'un mot.
Il est vrai, mais il m'a marqué le dernier mépris.
Il faut que vous ayez mal entendu, Eraste. Est-ce qu'on méprise les gens qu'on aime?
En effet, rêvez-vous, monsieur.
Je n'y comprends donc rien. Mais vous me rassurez, puisque vous me dites que vous m'aimez. Daignez me le répéter encore.
Scène 18. Madame Argante, introduite par Frontin, Lisette, Eraste, Angélique, Monsieur Damis.
Vraiment, ce n'est pas là l'embarras, et je vous le répéterai avec plaisir. Mais vous le savez bien assez.
Qu'entends-je?
Et d'ailleurs, on m'a dit qu'il fallait être plus retenu dans les discours qu'on tient à son amant.
Quelle aimable franchise!
Mais je vais comme le cœur me mène, sans y entendre plus de finesse. J'ai du plaisir à vous voir, et je vous vois, et s'il y a de ma faute à vous avouer si souvent que je vous aime, je la mets sur votre compte, et je ne veux point y avoir part.
Que vous me charmez!
Si ma mère m'avait donné plus d'expérience, si j'avais été un peu dans le monde, je vous aimerais peut-être sans vous le dire. Je vous ferais languir pour le savoir, je retiendrais mon cœur. Cela n'irait pas si vite, et vous m'auriez déjà dit que je suis une ingrate. Mais je ne saurais la contrefaire. Mettez-vous à ma place. J'ai tant souffert de contraintes. Ma mère m'a rendu la vie si triste. J'ai eu si peu de satisfaction. Elle a tant mortifié mes sentiments. Je suis si lasse de les cacher, que lorsque je suis contente, et que je le puis dire, je l'ai déjà dit avant que de savoir que j'ai parlé. C'est comme quelqu'un qui respire. Et imaginez-vous à présent ce que c'est qu'une fille qui a toujours été gênée, qui est avec vous, que vous aimez, qui ne vous hait pas, qui vous aime, qui est franche, et qui n'a jamais eu le plaisir de dire ce qu'elle pense, qui ne pensera jamais rien de si touchant. Et voyez si je puis résister à tout cela.
Oui. Ma joie, à ce que j'entends là, va jusqu'au transport. Mais il s'agit de nos affaires. J'ai le bonheur d'avoir un père raisonnable, à qui je suis aussi cher qu'il me l'est à moi-même, et qui, j'espère, entrera volontiers dans nos vues.
Pour moi, je n'ai pas le bonheur d'avoir une mère qui lui ressemble. Je ne l'en aime pourtant pas moins.
Ah, oh, c'en est trop. Fille indigne de ma tendresse.
Je suis perdue.
Ils s'écartent tous trois.
Vite, Frontin, qu'on éclaire, qu'on vienne.
En disant cela, elle avance et rencontre M. Damis, qu'elle saisit par le domino et continue.
Ingrate, est-ce là le fruit des soins que je me suis donné pour vous former à la vertu? Ménager des intrigues à mon insu, vous plaindre d'une éducation qui m'occupait tout entière. Eh bien, jeune extravagante, un couvent, plus austère que moi, me répondra des égarements de votre cœur.
Scène 19 et dernière. La lumière arrive avec Frontin et les autres domestiques avec des bougies. Monsieur Damise démasqué à Madame Argante et en riant.
Vous voyez bien qu'on ne me recevrait pas au couvent.
Quoi? C'est vous, monsieur?
Voyant Eraste avec sa livrée.
Et ce fripon-là, que fait-il ici?
Ce fripon-là, c'est mon fils, à qui, tout bien examiné, je vous conseille de donner votre fille.
Votre fils?
Lui-même. Approchez, Eraste. Tout ce que j'ai entendu vient de m'ouvrir les yeux sur l'imprudence de mes desseins. Conjurez, madame, de vous être favorable. Il ne tiendra pas à moi qu'Angélique ne soit votre épouse. »
Éraste se jetant aux genoux de son père.
« Que je vous aide d'obligation, mon père. Nous pardonnerez-vous, madame, tout ce qui vient de se passer. »
Angélique, embrassant les genoux de madame Argante.
« Puis-je espérer d'obtenir grâce ?»
Votre fille a tort, mais elle est vertueuse, et à votre place, je croirais devoir oublier tout et me rendre.
Allons, monsieur, je suivrai vos conseils, et me conduirai comme il vous plaira.
Sur ce pied-là, le divertissement dont je prétendais vous amuser servira pour mon fils.
Angélique, de joie, embrasse madame Argante. Littérature audio vous a présenté une comédie en un acte de Marivaux, L'école des mères. D'honneur de voix ayant participé à ce projet collectif par ordre de leur entrée en scène. Lisette, Christine Treille. Éraste, Émeric. Frontin, Florent. Madame Argante, Christine Sétrin. Angélique, Plume. Monsieur Damis, Gustave. Champagne, Christophe Ménager. Didascalie et coordination, Cocotte.